conseil de discipline du lycée Henri Vallon d'Aubervilliers a finalement exclu définitivement de l'établissement Alam et Bilal.
Il y a quelques années, on a eu le débat sur l'excision. Fallait-il punir pénalement des gens dont c'était la coutume et en gros, c'était pas de leur faute?
Mais j'aimerais aussi qu'on parle des filles qui ne le portent pas et qui subissent aussi ces pressions.
Dans mon école, il n'y a jamais eu, ajoute Denise, d'étoile jaune. La laïcité ne le permettait pas.
C'est quelque chose qui contrevient à l'idéal de la République laïque. Ce que je voudrais rappeler, c'est que dans cette affaire, il ne s'agit pas simplement de traiter le problème du voile islamique.
Les jeunes filles refusent de retirer leur voile dans les écoles laïques, d'accord. Mais comment réagiraient-elles si nous, on entrait dans des mosquées en gardant nos chaussures?
Et là, par exemple, ce qu'elle a sur la tête, c'est réglementaire?
Alors, c'est un peu large.
Il y a le string, il y a l'uniforme, il y a le foulard. Alors, il y a même des gens qui proposent qu'on mette plutôt le string dans les cheveux et le tchador ailleurs.
Quand je parle des
alors, vous êtes pour la blouse grise, vous?
Et quand je parle, vous êtes pour la blouse grise?
Je trouve que c'était pas si mal.
Est-ce que Anan, avec cette épaisseur de bandeau, j'accepterais Anan aujourd'hui comme ça?
J'ai vu le proviseur en bas,
Anan, c'est non.
Il m'a dit oui.
Anan, on ne discute pas.
C'est pas un signe religion, c'est un symbole d'oppression fait aux femmes.
Et si ces femmes, par leur choix personnel, voudront être à poil? Là, ici, moi, je voudrais être à poil, c'est mon choix personnel. Ai-je le droit?
L'islam, je dis pas l'islamisme, l'islam est en train, en France, de pénétrer avec des troupes.
Je ne suis pas le seul dans ce pays à en penser que l'islam, je dis bien l'islam, je ne parle même pas des islamistes, en tant que religion, apporte une débilité d'archaïsme divers.
Donc un certain nombre de pratiques, de prosélytisme et de militantisme islamique qui se cachent derrière le voile.
Je le dis en toutes circonstances, aujourd'hui il faut ce dialogue-là.
Et non, il faut retirer le voile. Est-ce que c'est ce que vous dites?
On ne peut pas mettre sur le même pied l'égalité, c'est vrai. Le voile, dans son outil politique de conquête des esprits, et la kippa qui est une référence à Dieu.
Si on laisse faire, je crois qu'on ne s'en sortira pas.
L'Assemblée a voté massivement la loi contre les signes religieux à l'école, 494 voix pour, 36 voix contre. Le texte entrera en vigueur à l'automne 2004.
Bonsoir, vous êtes donc bien sur Dégenré avec ce soir Julia, Inga, Hélène et Amélia à la technique. Alors donc c'est notre deuxième émission et à cette occasion on avait envie de vous parler d'un phénomène qui est tout à fait d'actualité donc en cette rentrée scolaire 2004 qui est la question du foulard et plus particulièrement la loi Stasi qui a été adoptée et qui est une loi qui vise à exclure des établissements scolaires les jeunes filles qui portent le foulard. Donc comme vous venez de l'entendre, les médias se sont montrés très friands de ce sujet et une fois de plus, ils se sont contentés de diffuser la propagande gouvernementale qui fait un peu de l'islamisme un épouvantail, un danger qui nous guette, etc. Et finalement, donc qui est bien l'expression d'un racisme qui est de moins en moins caché. Et puis surtout, dans tout cette espèce soi-disant débat, bah, on se rend compte que on n'a absolument pas laissé la parole aux premières personnes concernées, c'est-à-dire bah, les jeunes filles en question qu'on prétend défendre, mais aussi les collégiens, lycéens, etc., qu'on prétend protéger d'une, entre guillemets, mauvaise influence. Alors ce soir, notre volonté à nous, c'était d'aborder autrement, sous un peu un autre angle, cette question-là. Trois jeunes femmes qui vous parlons à l'antenne, on n'est pas concernées directement par cette question, mais on a vraiment essayé, par notamment le recueil de témoignages, de laisser le plus possible la parole à ces jeunes femmes. Et puis l'idée aussi pour nous, c'est pour une fois de ne pas se contenter de regarder un petit peu les conséquences de cette situation-là, mais bien de remonter plus aux racines du problème. Puisqu'il nous semble vraiment que cette question n'est qu'un paravent pour masquer des problèmes sociaux comme la précarité, etc., qui engendrent un racisme, le sexisme, l'exclusion, etc. Donc c'est ce que va nous expliquer une femme qui s'appelle Saïda Kada, dont le témoignage est extrait d'un documentaire qui s'appelle « Un racisme à peine voilé », dont on vous parlera plus en fin d'émission, car on s'en est beaucoup servi dans tout notre travail. Alors, Saïda Kada est écrivaine et membre de l'association Femmes françaises et musulmanes engagées, qui se situe à Lyon, et elle a énormément travaillé sur toutes ces problématiques.
Aujourd'hui, on est en phase où on est en train de vouloir construire de nouvelles prisons, où il y a une situation carcérale qui est dramatique. Dans les classes populaires, on essaie de montrer que nos gosses, ils doivent être logés à la même enseigne que ceux qui n'habitent pas dans les quartiers, qu'on veut les mêmes moyens, qu'on veut pouvoir lutter contre la discrimination faciès, etc. Le problème d'insalubrité des logements, qu'aujourd'hui on est face à des politiques de la ville qui discriminent les gens plus qu'autre chose. On ponctionne de l'argent à tout va, mais ça passe plus souvent dans les frais de fonctionnement que dans la réalité des habitants, etc. Tout ça, finalement, ça permet de les mettre sur le plan, sur l'arrière-plan. L'histoire de Foulard concentre telles énergies, on a vraiment l'impression que la République est en danger, au point que finalement on explique aux gens qu'il faut se solidariser autour de cette question-là. Laissons de côté le reste, ne vous inquiétez pas, on s'en occupe pour vous, on traite ces situations-là. Et on place les gens ensuite sur le fait accompli. On a le sentiment aujourd'hui qu'on essaie simplement de penser les vraies préoccupations de notre place, et en fait on a lancé une espèce d'os à ronger aux gens pour qu'ils aient le sentiment d'exister, de défendre quelque chose. Mais en fait pour l'instant ils ne défendent rien. Aujourd'hui, la réalité, c'est que le foulard est un cache-misère.
انا عايز العالم كله يصحى وتفتح ابوابي اقولها خلينا نتكلم عن الفكر والافكار ومن زمان الذكر التربيه الحريه التجربه الفساد الدمار والبدايه مش لازم نسمع ونصدق لازم نحكي معقولنا ونفكر في كل الاحوال انسوا الصحافه والدعايه كلها جايه من الفايه من الفايه
donc sur Dégenré et on vient d'écouter Basse-Tête de Natacha Atlas, tirée de l'album Gélida. Et c'est une chanson qui critique entre autres la désinformation par les gouvernements et les médias.
Et pour débuter cette émission sur la loi Stasi, il nous semblait important de voir en quoi ces processus d'exclusion de jeunes filles pouvaient se passer aussi autour de nous et à Grenoble par exemple, et de bien voir que contrairement à ce qu'essaye de nous faire croire le ministre, il y a des jeunes femmes qui sont concernées aujourd'hui et maintenant.
Alors on va faire un vague bilan sur les conséquences de cette loi sur la rentrée 2004 avant d'aller à la racine du problème progressivement dans l'émission. Alors les chiffres précis sur le nombre d'expulsions, de déscolarisations ou de dévoilages forcés restent très inaccessibles et varient selon les sources. Étonnant. Du coup nous on a essayé de regrouper quelques informations en vrac extraites de diverses sources. Dans un article on peut lire qu'une élève de 14 ans est exclue définitivement du collège de Mâcon en Saône-et-Loire. Celle-ci ayant moins de 16 ans est obligée de suivre des cours par correspondance Et dans un autre article, une élève déclare « Depuis qu'elle porte le voile, elle se sent méprisée et stigmatisée. Ce n'est pas parce qu'on porte le foulard qu'on a une bombe dans son sac. Il ne faut pas tout mélanger. » À Mulhouse, deux filles du collège Jean Massé doivent passer en conseil de discipline. Dans leur témoignage, on a relevé quelques citations. « On nous a mis en quarantaine. On a été traitées comme des prisonnières. » Récréation sous surveillance, pas le droit de se rendre seul aux toilettes. Il nous manquait plus qu'on nous mette une laisse. Dans un autre témoignage, on lit aussi. On veut faire des petits robots avec les mêmes choses dans la tête. Mais c'est l'enseignement qui doit être laïque, pas les élèves. C'est une loi inhumaine, je me battrai jusqu'au bout, quitte à aller à la cour des droits de l'homme. Dans 30 ans, ce sera derrière nous. On se dira, on était raciste à cette époque, et on trouvera autre chose contre les jaunes, contre les noirs. Leur dialogue, c'est « t'obéis ou tu dégages ». Deux autres expulsions sont aussi prévues dans les lycées Louis-Armand et Lavoisier, ainsi que 12 autres élèves seront encore convoqués devant l'instance disciplinaire après les vacances de la Toussaint. Ça, toujours à Mulhouse. Trois autres cas d'expulsion en litige à Rennes, 8 à Saint-Étienne, 6 à Lille, 4 à Mantes-la-Jolie, une quinzaine à Strasbourg. À cela, il ne faut pas oublier d'ajouter tous les autres cas d'expulsion. Toute personne ne parle ainsi... Donc personne ne parle, ainsi que les jeunes filles qui ont accepté dans la douleur de retirer leur voile, ou encore celles qui sont déscolarisées.
Donc à Grenoble, on n'a pas de chiffres officiels, parce que c'est pas facile d'avoir accès à ces informations-là. En tout cas, un événement qui est sûr, c'est que dernièrement, au musée dauphinois, on interdit l'entrée à une femme sous prétexte qu'elle était voilée. Donc la discrimination est un peu partout autour de nous.
Alors, pour témoigner de l'atrocité du déroulement de ces événements, on va écouter le témoignage de Fatima Assoudi, ancienne élève d'un lycée de Strasbourg, qui aujourd'hui fait partie du collectif One Musulmane.
En fait, ça s'est passé en septembre 1994. Donc j'étais en terminale et donc bon il y a eu la circulaire du ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Bayrou, qui était envoyé à tous les proviseurs et c'était aux proviseurs de choisir, de voir en fonction des élèves s'il y avait lieu ou pas d'exclure une élève qui portait le foulard. Donc en septembre, on nous a d'abord parlé à toutes les filles qui ne voulaient pas enlever le foulard. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'on nous a placé, toutes les filles qui portaient le foulard, on nous a placé dans une salle. Je me souviens très bien de la salle A240, c'était la salle de réunion. Et on nous a mis tout à l'écart, ensemble. On a essayé un peu de discuter pour nous convaincre de devoir l'enlever. Pendant 2 mois, on n'a pas eu le droit à aller en cours, quoi. On était là pendant toute la journée, de 8h du matin jusqu'à 6h du soir. Et bon, à la récréation, on avait le droit de sortir. Donc en fait, on était un petit peu les pestiférés du lycée, quoi. On nous enfermait, là. Mais après, bon... quand on allait voir nos camarades pendant la pause de récréation, on prenait le coup, on rattrapait, parce que nous, on ne se voyait pas du tout se faire exclure. On était une trentaine dans la salle à 240 tous les jours, quoi. Et donc, c'était un petit peu, c'était pendant 2 mois, c'était septembre, et je me suis fait renvoyer au mois de novembre. Donc, pendant 2 mois, c'était comme, je ne sais pas comment dire, on était un peu persécutés dans cette salle. Tous les jours, on venait, on rentrait dans le lycée, on voyait nos camarades 5-10 minutes avant qu'ils aillent en cours, et ensuite, on nous mettait dans cette salle.
à l'abri des autres, à l'abri des regards, je sais pas, c'est comme, c'est une drôle de sensation de rentrer. On rentre dans le lycée, mais après on vous met à part, on vous met dans une salle, et c'est comme si c'était un petit peu un moyen de, pas persécuter, mais je veux dire, un moyen de pression, voilà. Bon, ensuite, en novembre, quoi, moi j'ai été exclue le 21 novembre 1994, ben, je suis passée au conseil de discipline. Quand moi on m'a dit que je passais au conseil de discipline, quel manquement de discipline j'ai eu? C'est ça qui est le plus choquant, c'est vous allez passer au conseil de discipline, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Et je me souviens encore de cette scène quand le proviseur m'a tendu une feuille, et sur cette feuille il avait écrit mon nom, il avait écrit Mademoiselle Aouzi Fatima, et renvoyé, exclu définitivement, le 21 novembre 1994. Et en dessous, il y avait A, c'était pour marquer l'heure. Il était 10h30, il a marqué 10h30. Il m'a tendu la feuille et il m'a dit, il est 10h30, à 10h31, je ne veux plus vous voir dans l'enceinte de l'établissement. Et ça, je crois que ça a été le pire de tout. Même le fait d'être enfermé dans cette salle. C'était le pire, le fait qu'il me tende cette feuille et qu'il me dise, dehors quoi. Dehors, on veut plus de toi. Et j'étais la première en plus à passer au conseil de discipline. Et de la cour de récréation, je voyais la salle à 240 parce qu'elle donnait sur la cour. Et je voyais les filles qui étaient là-bas et qui me voyaient partir. Et je voyais que ça allait bientôt être leur tour. Et je sais pas, c'est une image. Quand je suis sortie, c'était... Je trouve même pas les mots pour dire. C'est, je sais pas, pendant... Je réalisais pas encore. Mais le fait de tendre cette main et de me dire « dehors, on veut plus de toi », dont j'ai rien fait de mal, et on me jette comme ça, on me met à la rue. Et je crois que ça, c'était le pire, quoi. C'était... Et, je sais pas, je peux même pas mettre des mots dessus, mais c'est horrible. Une fois que je suis sortie, ce que j'ai ressenti, c'était une solitude, une grande solitude. Je me sentais seule, parce que, je sais pas, la vie à l'école, c'était ma vie sociale. Tous les camarades de classe que j'avais en cours, les professeurs, j'avais plus rien en commun avec eux. Tu vois, je veux dire, en général, quand tu sors du lycée à la fin des cours, tu parles des devoirs, des cours, des contrôles, le professeur, qu'est-ce qu'il t'a dit, tu vois. Et là, quand j'ai rencontré ces anciens camarades, je veux dire, quand on s'est rencontrés, on n'avait rien en commun à se dire, on n'avait plus rien. Je veux dire, je sais pas, eux avaient leurs devoirs, ils suivaient le cours de leurs études. Et moi, j'étais comme ça, parce que c'est comme s'il y avait moi et les autres. Je faisais plus partie, j'étais plus une élève, j'étais plus une lycéenne, j'étais plus rien. J'étais plus rien, en fait, quand je suis sortie. J'étais une exclue. Et là, je me suis vraiment sentie, je me souviens, les 10, on était là, on s'est dit vraiment, on est les exclus de la société. Parce que pour vivre dans une société, il faut vivre avec les autres. Si on vous met de côté, toute seule, je ne sais pas comment on peut devenir sociable. Et aussi, ce qu'il y a, c'est que l'école, c'est grâce à l'école qu'on peut avoir un avenir professionnel.
Oh,
Alors c'était Break Out de Aaron Scarum, extrait de leur dernier album The Last Light. C'est un groupe de femmes lesbiennes américaines qui font de la scène punk alternative libertaire avec des paroles féministes et anticapitalistes. Là, on va parler un peu de la laïcité. Alors, le concept de laïcité prend forme en 1789 avec les réflexions qu'engendrent les droits de l'homme et du citoyen, date de la Révolution française.
Et du coup, ça nous paraissait important de parler de ce concept de laïcité, puisque c'est vraiment une des raisons qu'on utilise toujours pour défendre cette loi Stasi.
La laïcité veut libérer l'État de toute emprise confessionnelle et délivrer l'école des déterminismes religieux. En 1881, c'est l'instauration d'un enseignement public gratuit et obligatoire de 7 à 13 ans et la suppression de l'enseignement du catéchisme. Pourtant, c'est seulement 5 ans après, avec la loi Goblet, que les ecclésiastiques n'ont plus la possibilité d'enseigner au sein des écoles publiques. Mais c'est avec la loi de 1905 que la dite séparation des églises et de l'État s'effectue. Dite séparation car la morale religieuse, chrétienne, est toujours de vigueur. La République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte. Les budgets des cultes sont supprimés. Le chef de l'État ne nomme plus les évêques. Honneurs, préséances et privilèges sont abolis, du moins officiellement. C'est donc à cette période que le monopole de fait de l'Église se décroît. À savoir qu'aujourd'hui, il existe toujours des aumôneries et des chapelles dans certains établissements publics. L'école n'est plus contrôlée par l'Église. Église qui surveillait l'orthodoxie de l'enseignement, effectuait une censure considérable et façonnait les esprits à sa morale, etc., etc. La laïcité, au-delà de ce combat primordial, anticlérical, a mené d'autres champs de bataille, comme le droit des filles d'accéder à un enseignement, loi qui ne verra d'ailleurs le jour qu'en 1880, soit plus de 100 ans après la déclaration de 1789, dont l'article 1er stipule que l'homme et la femme sont égaux en droit. La loi Naquet, qui rétablit le divorce, qui avait été instauré puis supprimé. La loi de 1975, relative à l'IVG, intervention volontaire de grossesse. Loi mis d'ailleurs récemment en danger avec les lois Perben, avec l'amendement Garot, qui voulait faire de l'IVG un délit en introduisant l'idée que le fœtus était considéré comme une personne dans le code pénal. Amendement qui n'a pas vu le jour grâce à diverses mobilisations. C'est pourquoi ici il est important de signaler que nous ne remettons pas en question certaines batailles menées par les laïcars pour la laïcité. Mais on tient à revenir en particulier sur cette loi mais aussi sur ce concept de laïcité corrompu par un système étatique dominant. En effet, aujourd'hui, ce n'est plus l'Église qui domine, mais l'État, qui, comme avant l'Église, détient le monopole de fait. C'est-à-dire qu'il se réserve le droit de surveiller les écoles libres, que sur les programmes, il dispose de la collation des grades. En d'autres termes, il vérifie et fait en sorte que l'enseignement soit conforme à la morale, à la Constitution et aux lois. Loi, Constitution et morale, imprégnées, imbibées de la morale chrétienne. Pour que la laïcité ait un réel sens, il aurait fallu que l'État se sépare de sa conception de la vie bonne, de sa morale et de sa culture dominante, de la même manière qu'il s'était séparé de l'Église, et même de manière plus radicale. Ce qui n'est pas le cas. Et c'est au nom de ce concept de laïcité qui refuse toute domination religieuse ou étatique, contre toute discrimination, pour la liberté de conscience, qu'il faudrait refuser le monopole de l'État. Le clergé avait pour prétention de faire la loi, ce qui n'est pas le cas de la communauté musulmane. Du moins, c'est la stigmatiser que de le penser. L'intégrisme islamique n'est pas plus une menace que les autres formes d'intégrisme. De plus, cette communauté musulmane est bien plus minoritaire que la communauté chrétienne de l'ancien régime et même d'aujourd'hui. Aujourd'hui, n'ayez crainte, ou plutôt ayez crainte, c'est l'État qui fait la loi. Et cet État fait des lois d'exception. La loi interdisant le port des signes religieux ostensibles a été présentée comme un rappel nécessaire des principes laïques. Mais de quel principe laïque s'agit-il ? Cette loi exclut des élèves, des filles. Doit-on se référer à la loi de 1881 pour un enseignement public gratuit et obligatoire ? Ou peut-être à celle de 1880 qui donnait accès aux filles à un enseignement ? Ou encore et surtout à la loi de 1905 qui spécifie clairement que les signes religieux doivent être absents dans les locaux, les programmes scolaires et chez le personnel enseignant, et donc nullement chez les élèves ? Il est donc à première vue paradoxal, si on reste déjà juste sur le strict terrain de la laïcité, qu'une nouvelle loi, marquant une rupture avec les textes de loi fondateurs de la laïcité en introduisant un devoir de laïcité de la part des élèves, ait pu considérer comme un rappel ou un retour au, puis, puisse être considéré comme un rappel ou un retour aux sources. Ce concept de laïcité ne peut aucunement justifier l'exclusion de ces filles.
Et on va écouter en fait des extraits d'interviews de justement quatre filles du collectif contre les exclusions de Rennes, dont deux sont étudiantes et étaient concernées par les exclusions il y a déjà quelques années, et deux autres sont lycéennes.
Bah, la laïcité, je la définis comme dans l'esprit de la loi de 1905, en gros liberté de conscience. L'État et la religion est entièrement séparés et on est tout à fait libre d'exprimer ses convictions. Et en termes de prosélytisme, parce qu'il y a quand même cette notion qui est dans les établissements scolaires abordée, moi je pense concrètement que c'est pas une tenue vestimentaire qui va déterminer si, enfin qui va être du prosélytisme. Je pense que c'est un comportement. C'est toute une série de comportements, mais c'est pas du tout une tenue vestimentaire. Et je pense que si on s'en tient là, eh ben, on aura une liberté quand même, une liberté d'expression politique ou religieuse dans les lycées. C'est-à-dire que un Che Guevara, un kéfier, une faucille, un marteau et un foulard, ça pourrait être accepté dans un lycée. À l'époque, les catholiques avaient le pouvoir, il y avait un contrôle de l'Église. Or aujourd'hui, les musulmans, ils vont pas prendre le pouvoir, quoi. Faut arrêter. Enfin, genre, c'est vraiment un délire. Je sais j'avais des profs en quatrième qui me disaient, oui, mais mon pays, c'est la France et j'ai pas envie que ça devienne comme l'Iran. Mais faut arrêter le délire, quoi. Il existe des mouvements intégristes à Lyon, à Paris, enfin surtout dans les grandes banlieues. Et je pense que autant moi, je les combats comme n'importe quel citoyen dans la mesure où c'est une vision très une vision absolue, enfin que je partage pas du tout et très violente des choses. Mais maintenant, la majorité de la population musulmane en France partage pas du tout cette idéologie-là et est plutôt contre, quoi. Donc je pense que derrière ces jeunes filles voilées, à quelques exceptions près, c'est un choix. S'il existe une pression familiale, elle n'est pas forcément d'origine intégriste, elle peut l'être, mais elle peut aussi être une pression culturelle et traditionnelle.
Pour moi, peut-être que porter le voile, justement, c'est m'émanciper, c'est m'affirmer en tant que femme. Donc c'est pas, il n'y a pas le féminisme unique. C'est pas universel.
Et on est énormément de femmes musulmanes à se définir comme féministes, c'est-à-dire comme des femmes qui se battent pour finalement que des femmes puissent accéder aux mêmes droits sans imposer un idéal. C'est-à-dire que vraiment, je pense que en France et même peut-être ailleurs, mais moi j'ai remarqué ça surtout en France, parce que c'est pas pareil en Allemagne ou en Belgique ou en Angleterre. Il y a un féministe assez franco-centriste, on va dire, et qui est quand même imprégné d'un certain colonialisme, parce que venir imposer un idéal ou dire toi tu n'es pas libérée, t'es soumise parce que tu portes un symbole, ou aller finalement tout résumer à un bout de tissu, je trouve que c'est grave et ça dénature finalement ce que devrait être le féminisme.
On nous parlait de l'Afghanistan, on nous parlait de l'Algérie, on nous parlait des trucs, mais moi qui porte le voile, je trouvais ça insensé. On nous parlait pas, on nous montrait pas nous, on nous donnait pas la parole. Alors on entendait justement un écrivain iranien parler de l'Iran, ça n'a rien à voir avec nous. Moi je suis citoyenne, je suis française.
L'attitude des profs, elle était très très, très agressive vraiment j'ai vraiment vécu ça, mais très lourdement, ça a été très pesant. Et justement quand je suis rentrée au lycée après, étant donné que la décision a été prise, c'était dans un autre établissement. Pendant un mois aussi, j'ai été ballottée d'une classe à l'autre, j'ai pas pu aller à l'école. Et puis, ce que j'ai ressenti surtout, c'est une humiliation, vraiment. Parce que la façon dont on me parlait, la façon dont on parlait de mon foulard, c'était vraiment quelque chose qui n'appartenait pas à la France, enfin, en tout cas pour eux, et qui n'avait rien à voir avec... c'était une sorte de dire, de toute façon, ici, dans ce pays, vous portez pas ce foulard. Je me suis sentie très étrangère. Alors que, bon, j'ai grandi en France, j'ai jamais connu mon pays natal, donc... je me suis sentie finalement, j'ai eu ce sentiment d'aliénation en disant oui, je suis française, mais je suis peut-être pas tout à fait française. Finalement, moi je crois qu'il y a du positif dans le négatif, parce que je crois qu'on a dévoilé un racisme latent qui est présent dans la société française, une mentalité coloniale très imprégnée dans la société française.
Il y a certains problèmes en France et ils souhaitent cacher ça, donc en sortant un faux problème. Pouvoir faire des choses par derrière, c'est comme toutes ces lois qui passent en ce moment. Personne n'est vraiment au courant parce qu'on focalise le problème sur le voile, quoi.
On supprime des postes, on donne pas aux moyens, enfin des moyens aux professeurs.
Finalement, aujourd'hui, quand on voit le désengagement et peut-être le désintérêt des gens sur la question des sans-papiers, sur la question du vote des étrangers, sur la question de la discrimination, et quand on voit finalement qu'aujourd'hui, l'idéologie dominante, elle a réussi à stigmatiser, à pointer du doigt les victimes et en faire finalement le problème. C'est-à-dire qu'on regarde les personnes dans les banlieues, on regarde les chômeurs, les immigrés, et on en fait finalement le problème de la France. C'est-à-dire des vecteurs de violence, alors que finalement la violence et le problème de ce pays, c'est bien la précarité, le chômage et vraiment, vraiment le manque de politique et de projet social.
Sur Dégenré, donc une émission féministe, les deuxièmes et quatrièmes mercredis du mois sur Kaléidoscope. Alors, petite précision pour les adeptes du web, donc on peut nous écouter en direct sur le site radio-kaléidoscope.net. Et donc on vient d'écouter une chanson de Crass, donc un groupe punk anglais qui s'appelle Burka Tax Bribe et qui parle un peu de l'oppression liée à la religion en général sur la vie des individus.
Pour revenir alors à notre thème de l'émission d'aujourd'hui, qui est la loi Stasi qui interdit le port de signes religieux ostensibles à l'école. Moi, je voudrais revenir en fait sur le fait que dans les débats autour de cette loi, l'islam est dénoncé comme une religion misogyne, opprimant les femmes. Et je voudrais en fait relativiser un peu cette vision-là, non pas pour nier que la position que la religion musulmane réserve aux femmes peut effectivement être problématique et imprégnée d'une forte misogynie, mais quand je parle de relativiser, c'est que je voudrais replacer l'islam dans le contexte des autres monothéismes, qui sont loin en fait de proposer une vision plus valorisante ou émancipatrice pour les femmes. Je me suis donc penchée un peu sur les textes fondateurs de ces religions, et aussi pour cela, une petite parenthèse, en fait, je me suis servi de l'œuvre « Tir croisé » de Caroline Fouret et Fiametta Wenner. Et en fait, elles prennent position pour la loi à un moment dans leur œuvre. J'ai utilisé leur livre comme un outil parce qu'il rassemble énormément d'infos et de données, mais donc je ne partage pas du tout leurs conclusions et analyses qu'ils ont suivies. Alors déjà, il faut savoir que du judaïsme au christianisme, puis ensuite à l'islam, il s'agit d'une sorte de prolongation. C'est-à-dire que la Torah devient une partie de l'Ancien Testament chez les chrétiens, et l'islam ensuite reconnaît les écrits et les prophètes de la Bible. Ça veut dire concrètement que l'idée selon laquelle les femmes seraient à l'origine de la tentation et du mal, c'est-à-dire le mythe d'Adam et Ève, fait partie des références communes des juifs, chrétiens et musulmans. Et c'est notamment cette idée-là qui justifie toute la haine et le mépris exprimés envers les femmes. Dans un livre de la Torah, le Qohelet, qui devient l'Ecclésiaste chez les chrétiens, on peut lire par exemple « Et ce que j'ai trouvé de plus amer que la mort, c'est la femme dont le cœur n'est que guet-apens et piège et dont les bras sont des chaînes. »
Et les rabbins rédacteurs du Talmud ont établi une liste de 9 malédictions frappant la femme depuis la chute d'Adam et Ève. « À la femme, il donna 9 fléaux et la mort, la peine du sang des règles et de la virginité, le fardeau de la grossesse, la souffrance de l'accouchement, la charge d'élever les enfants. Sa tête est couverte comme en deuil, elle se perce les oreilles telle l'esclave à vie qui sert son maître. Elle n'est pas assez crédible comme témoin, et après tout cela, la mort. »
En plus, les femmes juives n'ont pas le droit d'étudier la Torah ou le Talmud, ce qui veut dire concrètement que ce sont les hommes qui ont le monopole pour l'interprétation des textes sacrés. Alors ensuite, pour le christianisme, en fait, dans la Bible des chrétiens, on peut trouver également des propos misogynes. Ainsi, saint Paul revendique dans l'épître aux Corinthiens ouvertement la domination masculine.
« Je veux cependant que vous le sachiez, le chef de tout homme, c'est le Christ, le chef de la femme, c'est l'homme. »
Et un peu plus loin, il ordonne de maintenir les femmes dans l'ignorance et la dépendance.
« Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de prendre la parole, qu'elles se tiennent dans la soumission, selon que la loi même le dit. Si elles veulent s'instruire sur quelques points, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est inconvenant pour une femme de parler dans une assemblée. »
Et chez les catholiques d'ailleurs, les positions qui permettent l'interprétation des textes sacrés sont aussi réservées aux hommes. On n'aura jamais encore vu une femme prêtre, évêque ou même pape. La seule manière pour les femmes de racheter leur faute originelle est la reproduction et la maternité. Une fois de plus, on peut citer saint Paul.
Ce n'est pas Adam qui se laissa séduire, mais la femme qui, séduite, se rendit coupable de transgression. Néanmoins, elle sera sauvée en devenant mère, à condition de persévérer avec modestie dans la foi, la charité et la sainteté.
Mais on peut aussi citer saint Augustin.
Nous devons toujours prendre garde à l'Ève tentatrice qui subsiste dans chaque femme. Je ne vois pas quelle utilisation peut faire l'homme de la femme si on exclut la fonction d'élever les enfants.
Voilà donc un petit aperçu de la misogynie dans les textes fondateurs des religions juives et chrétiennes. Et si l'islam s'inscrit dans la prolongation d'une tradition monothéiste, il n'est donc pas étonnant du tout d'y trouver également des positions misogynes et sexistes. Et maintenant, il faut bien se dire qu'il n'y a que les intégristes, qui sont bien minoritaires dans l'ensemble des croyants, qui veulent appliquer littéralement et de façon intransigeante les textes et les préceptes qui sont alors jugés archaïques par des croyants plus modérés. Et heureusement, dans les trois religions, des interprétations plus progressistes sont à l'ordre du jour aujourd'hui. Pour dire deux mots sur les intégrismes, dans les médias, il n'y a pratiquement que les islamistes qui sont visibles, alors que les intégrismes juifs et chrétiens existent tout autant et sont d'une violence extrême aussi. Chez les juifs ultra-orthodoxes, par exemple, le mari peut répudier son épouse pour non-fécondité et la remplacer sans problème, alors que si c'est elle qui veut le divorce, elle a besoin de l'accord de son mari, d'après la loi juive. Et les intégristes catholiques se démarquent des catholiques plus modérés, surtout par une certaine radicalité politique concernant des sujets comme la famille, les femmes, l'IVG ou la nation. Et si en France, il y a des intégristes qui mettent en danger des libertés acquises, notamment pour les femmes, ce sont bien les intégristes catholiques qui sont très présents dans les lobbies anti-avortement, anti-pax ou plus généralement pour essayer d'imposer leur position quant aux législations relatives à la famille, la parentalité, l'homosexualité, etc. Et juste une dernière petite remarque, en fait, au niveau européen, il y a le débat en ce moment d'inscrire dans la Constitution européenne que l'Europe serait chrétienne, ce qui est la négation pure et simple de la présence de plein de personnes de confession autre quoi, que chrétienne en Europe. Et alors, en plus, la laïcité, c'est pas vraiment acquis. Hein. Alors, après tout ça, on serait tenté de dire « Mais justement, la République laïque est là pour limiter les dégâts de tout ce sexisme religieux. » Mais malheureusement, la République est premièrement très imprégnée d'une morale chrétienne, comme d'ailleurs toute la culture occidentale, et deuxièmement, les religions sont loin d'être les seuls lieux du sexisme. Alors, quelques chiffres sur les réalités actuelles en République française. En moyenne, les femmes sont payées 25% de moins à travail égal. Et si aujourd'hui la majorité des femmes travaillent, les postes de pouvoir, que ce soit dans le public ou dans le privé, sont majoritairement occupés par des hommes. Et d'ailleurs, le Parlement, par exemple, qui a voté cette loi, il est composé à 88% d'hommes, ce qui est assez parlant en soi, je pense. En plus, les femmes se voient confrontées à ce qu'on peut appeler la double journée de travail, puisqu'elles assurent toujours 80% des travaux ménagers et des soins aux personnes dépendantes. Et en revanche, elles sont les premières à être touchées par le chômage et la précarité. Elles sont aussi victimes de violences conjugales, qui sont bien des violences sexistes. Cet été encore, l'AFP relate que 29 femmes ont été tuées par leur conjoint, ça veut dire une femme tous les deux jours. L'État français ne s'est jamais spécialement intéressé à la question, contrairement à la plupart des autres pays européens qui s'intéressent aux chiffres de ces homicides spécifiques, appelés alors crimes de genre ou homicides sexistes, alors que la France s'obstine à parler de crimes passionnels. Et le fait de s'intéresser spécifiquement à ces homicides-là, ou féminicide, c'est bien la première base pour pouvoir analyser un phénomène social et pour pouvoir le combattre ensuite, mais dans nos classes politiques, ça semble pas être jugé un sujet assez sérieux pour s'en préoccuper. Et en dernier exemple, peut-être, la loi sur l'avortement, où il s'agit toujours d'une loi restrictive qui limite à 12 semaines la possibilité d'avorter, alors que dans d'autres pays, les délais sont vachement plus longs. Et en plus, il y a une procédure qui peut être assez contraignante à suivre. Rien n'est mis en place pour veiller à l'application de la loi. Et entre autres, par exemple, les tarifs qui sont remboursés par la Sécurité sociale n'ont pas été rehaussés depuis des années, alors que d'autres interventions des médecins sont payées plus chèrement.
Et on peut aussi vraiment constater que dans les services médicaux, il y a une très forte culpabilisation du personnel médical sur les femmes, alors que voilà, elles ont le droit de pratiquer cet avortement, mais on cherche absolument à leur dire que c'est mal.
Ouais, alors pour conclure, dans tout ce sexisme ambiant, que ce soit religieux ou républicain, on nous dit que le foulard serait un ou même le symbole de l'oppression des femmes. Alors, des symboles, on peut en trouver plein d'autres. Par exemple, les talons aiguilles en sont tout autant. Il suffit de regarder les panneaux de pub pour en voir tout le long dans nos villes. quoi. Mais en fait, ce qui nous intéresse en tant que féministes, c'est pas tellement les symboles, mais bien les réalités concrètes auxquelles sont confrontées les femmes.
Voilà, et donc une des réalités à l'heure actuelle, c'est bien que des jeunes femmes sont exclues sous prétexte qu'elles portent le voile.
Alors on va écouter une chanson produite par une association féministe algérienne qui s'appelle 20 ans Barakat, qui est chantée par plein de femmes artistes différentes. Et c'est en fait une chanson qui dénonce le code de la famille et ses dégâts en Algérie. Et nous, on a choisi de la passer pour parler aussi de l'hypocrisie du gouvernement français qui, en fait, avec cette loi contre le voile à l'école, a parfois un pseudo-discours féministe, tout, alors qu'en même temps, ce gouvernement il a passé des accords bilatéraux avec l'Algérie et les femmes algériennes en France, elles sont soumises aussi à ce code de la famille algérien, alors qu'elles sont en France et qu'elles vivent en France.
Tant que ça dérange pas les autres personnes, je pense que c'est pas forcément ça a pas un effet négatif sur les autres élèves, quoi.
c'est un signe de, bah, de l'établissement qui l'a renvoyé l'élève. C'est un signe de rejet des différentes religions. C'est une sorte de discrimination envers certaines personnes, enfin, je trouve.
Moi, personnellement, je pense que si les gens ils ont envie de montrer leur, leur religion par des signes religieux, que ce soit une croix ou n'importe quoi, bah, qu'ils le fassent, ça gêne pas. Enfin, je trouve que ça gêne pas forcément, quoi. C'est comme la tenue vestimentaire, ça permet d'affirmer sa personnalité, et s'ils en ressentent le besoin, bah, tant mieux pour eux. Hein.
Et si la religion fait partie de la personnalité, pourquoi pas ?
Bah, enfin, moi, je pense que c'est quand même extrême, l'exclusion, parce qu'elles ont quand même le droit à l'école. Mais bon, d'un côté, on est un pays laïque, et si les lois nous demandent de l'enlever, bah, faut qu'elles s'y soumettent. Mais d'un côté, c'est pareil, elles doivent se soumettre pour mettre le voile et de se soumettre pour l'enlever. Donc, dans tous les cas, ça fait pas trop avancer là-dessus. Enfin, je sais pas, j'ai pas l'impression que ça fait vraiment avancer les choses, parce qu'en fin de compte, on est toujours dans un conflit, on n'en sort pas, donc...
Ben, je pense qu'en fait, ils ont dit que c'était une loi sur la laïcité, que ça encerclait tout le monde, qu'ils ont parlé de la croix, de l'étoile de David et du voile. En fait, je pense qu'ils parlent surtout du voile, et je dirais ça un peu injuste, parce que moi je vois dans mon établissement, il y a plein de filles qui se baladent avec leur grosse croix, on leur dira jamais rien, alors que moi j'ai venu me faire renvoyer pour un bandana. Et je sais que moi ça me dérangerait pas plus que ça qu'il y ait des gens avec leur kippa, leur croix, tout ça, parce qu'au contraire je pense que ça pourrait installer un dialogue et... C'est intéressant de s'intéresser aux religions des autres, tout ça. C'est une richesse et je pense qu'ils font perdre un peu cette richesse. Maintenant, ça fait un an que je le porte et puis je me sens bien avec. Et de l'enlever, ben, j'ai pas vraiment l'impression que c'est vraiment moi. Je me sens bizarre, quoi. Voilà, quoi. Porter le voile, c'est par pudeur. Je veux dire, avant, je me sentais vachement mal dans ma peau. Je me sentais toute pas bien, toute grosse. Je me sentais pas bien. Et puis, je sais que depuis que je l'ai porté, ben, je me sens beaucoup mieux. Et je saurais pas vraiment expliquer pourquoi, mais c'est par pudeur, en fait, qu'on porte le voile. C'était le premier jour de la rentrée, la première heure de cours. J'avais mon bandana. Il m'avait jamais vu avec le voile ni rien. Et il y a le pion qui est venu me voir, qui m'a dit, écoute, Khadija, je les ai entendu parler, ça va pas le faire et tout. Je lui ai dit, mais de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu sais sur moi? Il m'a dit, mais rien, moi je les ai entendus parler, c'est, voilà, c'est comme ça, je te connais, je t'aime bien, je te le dis. La CPE, elle a vu me parler, elle est tout de suite venue me voir, elle m'a dit, écoute, tu enlèves tout de suite, autrement c'est dans le bureau et tu retournes chez toi. Et bah, donc je l'ai enlevée, puis j'ai mis une casquette, et la casquette je l'enlevais à chaque fois à la rentrée des cours, et je l'avais dans la cour. Dès que la CPE, elle m'a vu plusieurs fois et elle me disait de l'enlever, je disais qu'il y avait du soleil et je traçais, je n'allais pas me parler, je m'appuyais. Et puis bon, un jour je l'ai vue, j'ai accepté de l'enlever après. Et un jour, je l'ai croisée à l'extérieur de l'établissement, j'avais le voile. Et on était vraiment comme ça. Et je lui ai dit bonjour, elle a rigolé, elle est passée. Et le lendemain, je l'ai vue, elle était bien à l'entrée de l'établissement, je suis rentrée sans enlever ma casquette. Et j'ai fait exprès et elle m'a dit qu'elle déjà, t'enlèves ta casquette, je lui ai dit non. Elle m'a dit pourquoi, je lui ai dit ben vous m'avez respecté comme si j'étais une grosse merde. Je vois pas comment moi j'ai envie de vous respecter. Je lui ai dit je vous ai toujours respecté, je vous ai jamais manqué de respect. Et vous me dites même pas bonjour alors qu'on est en face. Je lui ai dit j'ai envie de vous cracher la figure. Elle m'a dit tu vas tout de suite chez le principal, je suis allée chez le principal, je lui ai dit que j'avais aucune envie de respecter la CPE, que je la respecterai plus jamais. Même si maintenant je le fais, et ben il m'a dit ben écoute c'est ton choix mais maintenant. Il m'a dit, moi, j'étais pas au courant de cette histoire, alors qu'elle m'avait dit qu'il était au courant, que c'était lui qui voulait. Et donc, il m'a dit, eh ben moi, je peux pas contourner son autorité, donc je te demanderai de l'enlever. Donc, je l'ai enlevé, voilà, pour pas faire de problème.
Bon, je pense que, d'accord, l'école est un lieu laïque, mais bon, elle se doit aussi de respecter les convictions personnelles, et je ne vois pas le mal qu'elle cause en portant son voile. Je veux dire, elle n'est pas en train de faire... Du prosélytisme, elle n'est pas en train d'imposer sa religion ou quoi que ce soit. Il faut aussi dire que, bon, généralement, les filles, quand elles se déshabillent, on ne leur dit rien, mais par contre, quand elles veulent cacher, c'est pudique, c'est une question personnelle, de conviction personnelle, et je ne vois pas en quoi ça choque et en quoi ça blesse les autres personnes. Donc, elle ne leur demande pas de s'habiller de telle façon ou d'enlever ça, etc. parce que ça la dérange. Enfin, je veux dire, on est dans un lieu où chacun se doit de respecter l'autre, ses convictions personnelles et son intégrité.
Moi, je dirais qu'ils disent que ça peut enclencher des relations discriminatoires, tout ça, antisémites, tout ça. je suis tout à fait contre parce que on me dira pas que je suis antisémite parce que je suis allée faire Shabbat chez une amie juive, j'ai plein d'amis juifs. Je suis allée faire Shabbat, elle m'a invitée pour voir comment ça se passait, j'y suis allée, c'était génial. Je veux dire, quand je vois une fille en mini-jupe, on voit son string qui sort et on voit tout son soutif et sa poitrine, je le crache pas à la figure. Je trouve que ça enclenche un truc dans la société qui est mauvais, c'est tout un cercle vicieux. Ça monte tout le monde contre tout le monde et c'est dommage.
Je trouve personnellement que ça sert à rien d'exclure des personnes qui portent le voile ou avec des signes religieux. Personnellement, moi, ça me dérange pas et je trouve pas que ça choque beaucoup de personnes. Donc après, c'est pas imposer sa religion ni quoi que ce soit, c'est juste faire les rites et tout. Et puis moi, enfin, voilà, tout ce que j'ai à dire, ça me dérange pas personnellement. Donc je trouve que c'est absurde cette loi.
C'est des filles comme les autres, donc elles ont le droit de croire en ce qu'elles veulent et si elles veulent porter un voile, bah, elles le portent. Hein, je vois pas pourquoi elles seraient exclues. Sans tant que ça les gêne pas pour suivre, je vois pas en quoi ça devrait être interdit. C'est sûr, si ça gêne de suivre, si toutes les deux minutes il faut demander, vous pouvez lire à haute voix, j'arrive pas à voir. Voilà quoi, mais bon, sinon, y a pas de raison. Hein.
Donc vous l'aurez sans doute compris, il s'agissait d'un micro-trottoir que nous avons réalisé la semaine dernière au collège-lycée Champollion, donc à Grenoble. Alors, il n'est pas forcément représentatif des différentes opinions existantes, mais il nous semblait vraiment important de montrer que les élèves sont également critiques par rapport à cette loi censée les protéger d'une mauvaise influence. C'est aussi ce que montre une étude qui est réalisée par des professeurs en région parisienne dans le 93, donc en Seine-Saint-Denis. Donc c'est des professeurs qui sont organisés pour faire une étude suivant une méthode rigoureuse. Et cette enquête, ils l'ont réalisée auprès de 125 élèves, donc quand même un échantillon relativement important. Alors, cette enquête, il y a donc dans cette enquête une première question qui demandait aux élèves les trois problèmes principaux qu'ils rencontraient dans leur scolarité. Et donc, on peut constater que les réponses ont été très diverses, sachant que la violence ou l'insécurité n'ont été mentionnées que par 3 élèves sur 125. Et eux, ils ont plutôt parlé de manque de respect, d'écoute, de compréhension, etc., de la part des professeurs. Donc ça, c'est les réponses qui sont revenues. Les réponses les plus fréquentes ont été des problèmes qui tournent autour du rythme de travail, donc emploi du temps trop chargé, etc. Quant au foulard islamique, il a été évoqué qu'une seule fois. Donc on va dire curieusement, peut-être aux yeux des autorités en tout cas. Donc on mesure vraiment à quel point le matraquage médiatique autour du foulard est très loin finalement des préoccupations des élèves. Et puis ça, on peut le mesurer également dans la suite de l'enquête, puisque quand on propose aux élèves la formulation suivante, la présence d'élèves portant le foulard islamique au milieu de 12 autres problèmes concernant la scolarité, seuls 17% des élèves interrogés disent que cette présence pose un problème très important ou assez important. Et plus de la moitié des élèves interrogés, 56%, déclarent que ce n'est pas vraiment un problème. Et même si l'on prend en compte les réponses problèmes très importants, les principaux problèmes, selon les élèves interrogés, sont plutôt l'inégalité des chances et les problèmes d'orientation. Alors, ensuite, si on rentre un peu plus loin dans cette enquête, lorsqu'on considère les réponses qui ciblent explicitement le foulard islamique et sa possible interdiction, le premier enseignement qu'on peut en tirer, c'est que l'opposition à l'interdiction du port du foulard est massive. C'est-à-dire que 79% des élèves s'y opposent simplement. Et puis, quand on essaye de comprendre un petit peu le public concerné par cette enquête et un peu son origine culturelle, sociale, etc., on se rend compte qu'il y a un poids important de l'âge et de la classe sociale dans le type de réponse. Donc, sur les 125 élèves interrogés, âgés de 15 à 20 ans, ils sont très majoritairement issus de classes populaires. Et ce sont donc les élèves de classe populaire qui sont nettement plus hostiles à l'interdiction et à l'exclusion par rapport à la moyenne nationale. Ensuite, il y a un troisième facteur qui est décisif dans les réponses, c'est la solidarité avec des jeunes filles, donc de la part des filles elles-mêmes, puisque ces jeunes filles sont leurs condisciples et qu'elles les côtoient au quotidien. Donc le sexe des personnes interrogées influe également sur les réponses. Donc les filles sont plus engagées que les garçons, mais dans les deux sens. Alors il y a plus de filles favorables à l'interdiction des signes religieux, mais il y a aussi plus de filles se prononçant contre cette interdiction et pour le maintien de la loi actuelle. De même, il y a légèrement plus de filles favorables à l'énoncé « il faut exclure les élèves voilés », mais il y a aussi nettement plus de filles se prononçant contre l'exclusion. Donc 83% de filles contre seulement 66% de garçons. Donc ces professeurs ont également essayé de voir si la confession religieuse ou la culture des élèves avait un impact sur les réponses. Et ce qu'ils en ont retiré, c'est que le facteur culturel n'en fait qu'un effet très relatif sur les réponses données. Il en est fait apparu que chez les garçons comme chez les filles, la présence de la référence musulmane dans le milieu familial induit des réponses légèrement plus marquées contre l'interdiction des signes religieux et contre l'exclusion des élèves voilés. Mais en fait, cette différence est très légère. Ce qui frappe le plus, en fait, à la lecture de tous ces chiffres, donc, c'est que la variable culturelle ne joue pas aussi fortement chez les garçons et chez les filles. Les écarts selon la référence culturelle sont faibles chez les filles, alors qu'ils sont beaucoup plus marqués chez les garçons. Donc à cela, ces professeurs ont trouvé deux raisons. Il y a tout d'abord une différence au sein des musulmans. Donc à savoir, une partie des filles musulmanes sont critiques face aux significations sexistes qu'elles voient dans le foulard. Donc elle se déclare, pour un tiers de ses filles interrogées, elle se déclare un peu gênée par le port du foulard qu'elle considère un peu comme une marque d'inégalité entre hommes et femmes, alors que les garçons musulmans semblent faire front contre toute mise en cause du foulard, donc il y a 0% de gênés. De même, la proportion de filles musulmanes favorables à l'interdiction des signes religieux est supérieure à celle des garçons musulmans. Mais ce qui creuse l'écart est surtout une différence de comportement au sein des non-musulmans. Donc là, c'est pareil, on se rend bien compte quand même de la société patriarcale dans laquelle on se trouve, hein, au travers de ces réponses. Donc les filles sans référence musulmane donnent des réponses très proches de celles des filles musulmanes. Elles sont presque dans les mêmes proportions gênées face aux significations sexistes du foulard, mais aussi opposées à l'interdiction et à l'exclusion. Tandis que les garçons sans référence musulmane sont moins critiques, mais aussi beaucoup moins solidaires avec leurs condisciples voilés. Une grande proportion de ces garçons, autour de 50% dans la plupart des questions, s'abstient de toute opinion. Chez eux, et chez eux seulement, pas chez les filles ni chez les garçons musulmans, les raisons diverses de ne pas se prononcer, la paresse, l'indifférence, l'incertitude, ou encore peut-être la méfiance face au sondage, l'emporte souvent sur la volonté de se solidariser avec des camarades menacés d'exclusion. Donc pour finir, il faut noter que les filles avec référence musulmane ont manifesté au cours de cette enquête une profonde méfiance à l'égard de leur sauveur. En effet, l'argument qui consiste à dire « il faut interdire le voile et exclure les élèves qui refusent de l'enlever afin d'apporter un soutien aux filles qui refusent de porter le voile et qui subissent de fait ces pressions » suscite chez les filles un profond scepticisme et même une franche opposition. 71% d'entre elles se disent en désaccord. Quant aux filles issues de familles musulmanes, les premières concernées par cet argument, elles sont encore plus opposées à cet argument que les filles sans référence musulmane. Donc si l'on résume, les jeunes garçons, et plus encore les jeunes filles, au nom desquels nos représentants quasi unanimes ont voté donc une loi d'interdiction des signes religieux, sont les derniers à demander une telle mesure. Ils y sont même majoritairement hostiles. Mais donc, en conclusion, on peut se dire, qui dans la classe politique se soucie de leur avis ?
Let's
Vous êtes sur Dégenré et on vient d'écouter My Heart Bleeps Noisy Beeps de Räuber Höhle, un groupe de femmes allemandes qui font de l'électro.
Donc je crois qu'on l'a un petit peu vu au travers des arguments précédents. Il y a bien, donc on considère bien les personnes... Les personnes donc qui portent le foulard comme des victimes qui seraient à protéger. Donc ça c'est quelque chose d'assez récurrent dans le rapport de la commission Stasi pour mettre en place cette loi. Alors ben nous il nous semblait très important de questionner justement cette notion de victime. Alors à savoir ce serait donc victime de qui, de quoi exactement. Ce qui nous amène à la notion de choix. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut et même, enfin, est-ce qu'on doit juger de la liberté de choix de ces jeunes femmes en général? Et donc, ça nous semble très complexe de rentrer dans ces considérations-là. En tout cas, en tant que féministe, toute cette polémique nous semble une fois de plus le reflet du peu de considération qu'on a envers les femmes. Alors, tout d'abord, ces jeunes femmes, donc comme on l'a dit, n'ont jamais été entendues et on n'a pas jugé nécessaire de discuter avec elles de leur vécu, de leur position pour adopter une loi censée les protéger. Donc ça, dans un contexte dit démocratique, ça pose vraiment question. Alors il y a donc des féministes. Il faut savoir que le milieu féministe est assez partagé par rapport à cette loi, mais il y a quand même des féministes qui ont pris position contre cette loi Stasi, et notamment Christine Delphi, qui est responsable en fait d'une revue qui s'appelle Les Nouvelles Questions Féministes, et qui écrit, me semble-t-il, quelque chose de très intéressant par rapport à cette question de victimisation des femmes. Elle dit « Ce projet de loi divise tous les groupes politiques, toutes les associations de la société civile. Il divise aussi les féministes. Les partisans de la loi, dans chaque groupe, sont les plus nombreux. Les discussions difficiles montrent que les arguments rationnels ne tiennent pas une grande place dans leurs convictions. La vue du foulard leur est insupportable. Ils et elles ne veulent même pas discuter avec les jeunes filles voilées. Comme l'a dit un membre de la commission Stasi, ils n'ont pas jugé utile d'auditionner les intéressés parce que, entre guillemets, ils ne sont pas sensibles à leurs arguments. Si peu sensibles, en fait, qu'ils ne veulent même pas les entendre. C'est hélas la position de la majorité de nos concitoyens, résumée par une féministe, qui dit « Le voile est un symbole d'oppression, point à la ligne ». La conclusion donc implicite et qui explique le refus d'écoute est que seules des personnes manipulées ou aliénées, ce qui est la même chose, peuvent arborer un symbole d'oppression. Alors, à quoi bon discuter avec des personnes manipulées et aliénées ? D'emblée, les lignes sont tracées. Nous savons ce que signifie ce que vous portez, nous savons mieux que vous ce que vous faites, et rien de ce que vous pourrez dire n'entamera nos certitudes. Adossé à la principale certitude, celle d'avoir raison, d'avoir la vérité et la science infuse. Quand on décide qu'une partie de la population ne maîtrise ni ses conduites ni leur sens, ce qui est la définition de la maladie mentale, discuter est non seulement inutile, c'est même dangereux, puisque cela suppose de se laisser toucher et peut-être contaminer par un discours pathologique. On va donc supprimer le droit fondamental de ces jeunes filles d'être scolarisées sous prétexte que leur présence menacerait potentiellement le droit des autres de ne pas porter le foulard. Donc en plus de les considérer comme aliénées, on fait à ces jeunes filles un procès d'intention. Elles auraient le dessein de rendre le port du foulard obligatoire en France. Alors on se demande bien quand même qui pouvait imaginer que seulement 2000 en plus jeunes filles, en majorité issues, comme on dit, de l'immigration. Donc c'est un espèce de lieu de naissance très étrange qui n'apparaît sur aucune carte de France, mais on les situe souvent. Qui pouvait imaginer il y a seulement 6 mois qu'elles avaient un pouvoir si considérable ? Donc il y a vraiment une espèce d'ambiguïté dans les discours officiels qui font donc à la fois de ces femmes des victimes totalement irresponsables, mais en même temps des personnes très nuisibles, dangereuses, ce qui leur confère tout à coup un énorme pouvoir. Donc on peut se demander alors pourquoi on voudrait faire d'elles des victimes. Donc moi, je crois que je vois pas d'autre raison que, une fois de plus, étayer des idées racistes selon lesquelles notre société dite évoluée aurait à combattre l'influence de ces peuples barbares qui, eux, et seulement eux, puisque nous, pas du tout, oppriment les femmes. Et puis ça permet également de détourner l'attention des oppressions générées par notre société sur les femmes de manière globale et qui perdurent malgré des décennies de lutte féministe. Donc on parlait tout à l'heure de la sphère du travail avec le déséquilibre des salaires entre les hommes et les femmes, mais on peut parler aussi, comme on l'a mentionné, des violences conjugales, etc., subies par les femmes. En tout cas, c'est bien une instrumentalisation des personnes pour des raisons totalement idéologiques. Et plus concrètement, cette loi Stasi qui met donc sur le devant de la scène le phénomène qui n'est finalement pas si répandu du port du voile en France, ça concerne finalement pas tant de filles que ça, permet en tout cas de masquer les politiques catastrophiques en termes d'éducation notamment, donc menées depuis des années et encore confortées cette année, donc comme la baisse d'effectifs de profs, la diminution des moyens, etc. En tout cas, faire de ces jeunes femmes de simples victimes, ça nous semble totalement faux et totalement réducteur, et je crois que c'est ce qu'on peut entendre dans beaucoup de témoignages de ces femmes, qu'elles sont loin d'être juste ça. Et quand bien même ce serait le cas, nous, ça nous rappelle un peu quand même des lois passées assez récemment, donc qui étaient les lois Sarkozy, qui, sous prétexte de lutter contre le proxénétisme, s'attaquaient en fait directement aux prostituées, donc aux personnes considérées comme victimes. Donc là encore, il y a un non-sens de dire « mais si elles sont victimes, alors pourquoi on s'y attaque ?» Et quant à la notion de choix, on l'a vu, comme tout phénomène culturel ou religieux, il est vraiment difficile de juger. Et encore une fois, est-ce que c'est souhaitable si le port du voile est un choix personnel ? En tout cas, on peut se demander aussi par exemple, une soi-disant majorité de Français ou Françaises d'obédience catholique l'est par choix individuel ou par tradition, héritage culturel, etc. Et encore, est-ce que les femmes dans notre société sont-elles plus libres, les cheveux au vent, quand elles subissent le diktat de la mode qui leur impose des régimes, des talons aiguilles, etc., pour simplement être aimables ? Donc tout ça quand même semble bien questionnable. Donc il ne s'agit surtout pas pour nous de nier des oppressions dues aux religions, et notamment à l'islam peut-être sur les femmes, mais comme le disent des femmes solidaires, des jeunes filles voilées, il s'agit bien de lutter autant pour que les femmes qui le souhaitent puissent porter le voile que pour celles qui ne le désirent pas et pour qui c'est une oppression puisse l'enlever.
Alors notre émission elle se rapproche de la fin et en dernière partie en fait on voudrait parler de ce qu'on peut appeler le néocolonialisme, c'est-à-dire cette attitude raciste qui consiste à stigmatiser toujours et encore les populations issues de l'immigration, surtout des anciennes colonies, et d'insister bien sur le fait qu'elles soient issues de l'immigration, alors que la plus grande partie des jeunes, et disons des jeunes adultes, sont nés en France, et aussi surtout de rester dans des représentations comme quoi ces groupes-là de la population française seraient moins civilisés que les Français de souche à comprendre les Français blancs. Mais en fait, pour expliquer ce que c'est le néocolonialisme, je vais d'abord laisser la parole à Saïda Kada, militante de femmes françaises et musulmanes engagées de Lyon.
On maintient les gens sur la peur de l'intégrisme, sur la peur de voir Ben Laden arriver en France, sur la peur de l'attentat, sur la peur de... On les tient là-dessus. Parce que si finalement il n'y avait pas toutes ces appréhensions-là, les gens iraient demain rencontrer... ces gens qu'on montre du doigt, mais qui sont-ils? Mais on n'irait pas, parce qu'on a peur de sauter sur une bombe. Tout débat, normalement, a des nuances. Rien n'est blanc ou noir. Mais quand il s'agit de la question de l'islam, il y a les bons et les méchants. Il y a le blanc et le noir. Tout est binaire, un peu comme, comme notre ami George Bush, qui a adressé un axe du mal. Et bien là, pareil, on a défini qui était le mal. Et celui qui a le malheur de déroger à ce qu'on a défini comme étant le mal... Ou c'est un islamophile, ou il a un double langage, ou il a quelque chose à cacher. Si on s'exprime mal, c'est qu'on est manipulé. Quand on essaie de s'exprimer correctement, on manipule. quand on essaie de déconstruire le discours de l'autre, on essaie de la jouer plus royaliste que les royalistes eux-mêmes. Donc finalement, on place le débat dans l'impasse. Peu importe ce qu'on fait, à partir du moment où on se décline musulman, forcément il y a Anguille Souroche. À la commission Stasi, on a daigné me recevoir 15 jours après la fin des dernières auditions, pour simplement écouter mon point de vue et m'expliquer finalement qu'il y a des femmes qui veulent être soignées par des femmes, qu'effectivement, paraît-il qu'on cautionne la lapidation, que paraît-il la mise à mort, bah, c'est le fait des musulmans. Il n'y a pas de mise à mort aux États-Unis. On n'a pas guillotiné les gens depuis jusqu'en 80 ici en France. C'est pas grave. Quand c'est la question de l'islam, c'est forcément des mises à mort. C'est tout ce qui est de l'ordre qui relève de la sauvagerie est propre aux musulmans. Parce qu'en Occident, on tue les gens, mais de manière très polie, très propre. C'est tout, il n'y a pas de sang. Alors c'est propre. Donc la mise à mort violente et sauvage, c'est réservé aux Arabes, aux Noirs, à toute cette population indigène. On a l'impression, par exemple, aujourd'hui dans les quartiers, que le viol collectif est l'effet de l'immigration. Que les tournantes sont une invention dans les quartiers. Mais la pilule du violeur qui touche les beaux quartiers, on n'en parle pas, entre gens bien comme il faut. Mais ces petits salopards là qui savent que violer les filles et dans les salles de poubelle, c'est vraiment nous montrer comme des espèces d'animaux, je veux dire. Et ça renvoie à quoi? Ça renvoie à l'image du sauvage, du français musulman, de celui qu'on devait civiliser. Pourquoi on parle de reconquérir les quartiers? Moi j'ai entendu un prof d'histoire de droit nous défendre les principes de nation, une certaine idée de la nation française. C'est-à-dire qu'on confond la République française, comme on l'entend aujourd'hui, avec une espèce de nostalgie liée à l'empire napoléonien, cette idée d'empire conquérant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vit mal le fait qu'une certaine partie de la population française aspire finalement à se développer toute seule. Non pas sans les autres, mais a besoin de le faire selon ses propres griefs. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de présenter des modèles d'intégration comme une espèce de défilé de mode. On nous montre quel est l'arabe qu'on doit devenir pour être un bon français. C'est ça qui est intéressant. On ne doit pas devenir un français, le bon arabe pour devenir français. Je crois que cette étape-là, elle est fondamentale. Alors, on nous donne des noms, ce qu'on appelle l'arabe de service, etc. Et il prend différents visages, et c'est souvent des gens qui sont carriéristes, donc forcément qui retrouvent leur compte. Donc, pour moi, on revient au discours néocolonial. Avec que ce soit cette commission Stasi, qui n'est autre qu'une caution politique, un débat qui n'a pas eu lieu. Il fallait bien excuser qu'à un moment donné, on ne fait pas de démocratie dans une démocratie. Donc on invente des débats avec un président qui a quand même d'emblée donné son avis, avant que les conclusions soient rendues, un parlement qui a déjà remis un rapport, et un président qui nous fait des leçons en Tunisie dans une école française, nous expliquant que les musulmans doivent comprendre que le foulard gêne les Français. Et quand c'est des Français qui portent le foulard, il faudrait peut-être poser la question à M. Chirac. Ça renvoie encore, ça nous renvoie à une condition d'immigrés. Parce que c'est de là qu'on veut nous laisser. Et quand nous, on explique que justement, les problèmes fondamentaux, c'est des problèmes sociaux, on nous dit, vous voulez jouer les gauchistes maintenant. Comme si, là aussi, on n'avait pas aussi, nous, on devait simplement aller chercher l'argent chez l'assistance sociale. Ou aller manger le couscous de l'amitié, ou d'aller manger chez Coluche. Nous, on ne peut pas être de ceux qui proposent, de ceux qui donnent, de ceux qui renforcent. Nous, on est forcément ceux du côté de ceux qui attendent des conclusions d'un débat et qui espèrent qu'ils auront une miette dedans, quoi.
Alors donc, c'était Saïda Kada de l'association lyonnaise Femmes Françaises et Musulmanes Engagées. Et moi, pour compléter, en fait, je voudrais parler plus particulièrement de l'instrumentalisation de la cause des femmes dans l'histoire coloniale et néocoloniale. Commencer par un exemple historique. En 1958, à Alger, les autorités coloniales françaises organisent toute une mise en scène autour du dévoilement des femmes musulmanes qui montent sur un podium et brûlent leur voile sur une place publique à Alger. Et il s'agit bien là de construire l'image d'une France civilisée qui aiderait les femmes musulmanes à se libérer de l'oppression des hommes musulmans. Alors, deux remarques là-dessus. Premièrement, c'est faire comme si les femmes françaises ne seraient pas aussi victimes de la domination masculine. Un exemple, en 1958, les femmes françaises avaient besoin de l'accord de leur mari pour exercer une profession et elles ne pouvaient pas avoir un compte en banque à leur nom. Ces droits ont été accordés seulement en 1965. Et deuxièmement, c'est aussi ne pas tenir compte du tout du fait que nombre de femmes algériennes à l'époque ne portaient pas le voile depuis longtemps ou même ne l'avaient jamais porté. Et par contre, cette mise en scène du dévoilement a pour conséquence que des femmes algériennes reprennent le voile pour affirmer leur solidarité avec l'Algérie colonisée et pour dire que ce n'est pas vrai que les femmes algériennes se libèrent sur invitation de la France et du général de Gaulle. Alors le parallèle avec cette loi actuelle contre le foulard à l'école s'impose pratiquement. Et malheureusement, il faut constater que de nombreuses féministes tombent dans le piège de cette vision néocoloniale. À entendre leurs discours, les banlieues, les populations d'origine maghrébine et pour une partie musulmane auraient le monopole du sexisme en France. En tant que féministe, moi je trouve ça extrêmement dangereux parce que, par exemple, la focalisation sur les viols collectifs en banlieue invisibilise complètement ces mêmes phénomènes ailleurs, comme par exemple dans les balles de campagne bien franchouillards. Et la violence de la domination masculine dans les banlieues est aussi réelle que celle dans les autres, enfin dans les centres-villes, les quartiers résidentiels et les zones rurales. Il ne s'agit pas de la nier ou de la minimiser, mais de la combattre au même titre que les autres formes que peut prendre le patriarcat. Et ça ne peut pas se faire en faisant des généralisations abusives pour dénoncer les méchants arabes sexistes, mais peut-être on pourrait commencer par reconnaître et prendre en compte le féminisme que développent des femmes d'origine maghrébine et ou des femmes musulmanes. Et cela va bien au-delà du phénomène très médiatique que sont les « ni putes ni soumises ». Par exemple, il existe des collectifs féministes, les Blédardes à Paris, Voix de musulmanes à Strasbourg et cette association lyonnaise Femmes françaises et musulmanes engagées.
Il nous semble donc important de nous mobiliser pour le retrait et contre cette loi Stasi, que ce soit dans les groupes féministes et même bien au-delà, car il s'agit réellement d'une loi qui, sous couvert de défendre des valeurs comme la laïcité, crée une fois de plus des boucs émissaires, en l'occurrence de jeunes musulmanes, mais au-delà toute une communauté. Il s'agit donc en réalité de masquer les vrais problèmes de notre société face auxquels les pouvoirs publics sont totalement impuissants. Alors dans les collèges, les lycées, les lieux publics, ne laissons pas cette discrimination, ces discriminations perdurer.
Et si vous voulez en savoir plus, rapidement une petite bibliographie. Nous on a trouvé des sites des informations surtout sur internet. Alors il y a le site du collectif Une école pour tous et toutes. Ou pour toutes et tous, c'est www.écolepourtoutes-tous.org. Sinon, il y a le site du collectif Les mots sont importants, avec beaucoup de textes très intéressants, c'est lmsi.net. Il y a aussi saphirnet.info, saphir avec ph. Une partie du son que nous on a passé dans cette émission était pris du film Un racisme à peine voilé, un documentaire de La Flèche Production. Et ils ont un site, c'est laflècheproduction.com, où vous pouvez trouver les dates de projection de ce film et un dossier de presse assez intéressant. Et si vous voulez nous contacter, c'est dégenré. At nolog.org, c'est nous-log.org, pour avoir plus d'informations, pour nous faire part de vos réflexions.
Voilà, donc nous, on vous dit à dans 15 jours et donc à très bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Je soutiens les putes, les soumises et les voilées.
Je soutiens tout le monde.
Et tout le monde. Qu'elle soit pute, SDF, je la soutiens. De toute chair. Elle a besoin de quelque chose, elle vient me voir. Je suis là. Je voulais dire aussi que la France, en fait, veut nous dévoiler pour voiler ses problèmes, tout simplement. C'est tout ce que je veux dire. Et puis maintenant, je suis là pour soutenir les femmes. Hein. Je suis aussi une femme française, citoyenne avant tout, et je suis venue me revendiquer, tout simplement.
Nous, on est un peu l'antithèse de ni pute ni soumise, parce qu'on est contre les lois qui punissent les prostituées et contre les lois qui punissent les femmes voilées. Donc voilà, on est exactement l'antithèse, on est donc un vrai mouvement féministe. Ni plus ni moins. Et on est surtout, on est indépendant. On n'est pas financé par le PS, ni par SOS Racisme. C'est cette bande de racailles là qui ont saboté la marche des bords. Voilà.
les flammes de la colère.